Précisément 18h sur France Culture, le journal. Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Frédéric Martel et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la rentrée politique de Marine Le Pen à Fréjus. La présidente du Rassemblement National cible le garde des Sceaux et prétend, je cite, combattre la barbarie qui s'installe en matière d'insécurité. Fin de citation. Artistes, employés des bars et des boîtes de nuit exsangues ont marché ensemble dans les rues de Bruxelles et demandé des aides au gouvernement pour ne pas s'éteindre. Reportage de Lakshmi Lottam. Qu'attend la jeunesse de Bamako? Des concertations nationales lancées par la junte militaire au pouvoir au Mali depuis le 18 août dernier. Élément de réponse avec Valérie Crova. Et puis Cuba se meurt. La fermeture des frontières en raison de la pandémie a terrassé le tourisme et faute de devises, le régime peine à payer ses importations. Correspondance en fin d'édition de Dominique Piron. Je suis extrêmement inquiet d'une forme de banalisation de la violence, et ce n'est pas simplement un sentiment d'insécurité, c'est une réelle insécurité, c'est une réalité. Qui parle? Eh bien, Yannick Jadot, député européen Europe Écologie des Verts, candidat à la candidature pour 2022. Et ce n'est pas le seul chez les Verts. Elle ne risque pas d'avoir à écarter un ou une rivale et sans se forcer ni passer à côté du thème porteur. Elle, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, a beaucoup parlé sécurité lors de la clôture de l'université d'été du parti. C'est un reportage à Fréjus d'Antoine Marette.
Français, réveillez-vous, c'est le nouveau slogan du Rassemblement National. Marine Le Pen déroule les faits divers médiatisés de l'été.
Ce chauffeur de bus, lynché pour avoir demandé à des passagers de payer et de porter leur masque. Ces meurtres au couteau, quand ce n'est pas au tournevis pour une place de parking, un sandwich. Et puis, il y a ce que la presse appelle pudiquement les voitures folles. Celles qui foncent sur des terrasses de café pour une simple contrariété. Celles qui fauchent une jeune aide-soignante et la traînent sur 800 mètres ou celles qui écrasent une gendarme sur un barrage.
Marine Le Pen décrit une société ensauvagée, presque apocalyptique. Une société dans laquelle il n'y aurait plus ni droit, ni état de droit. Et elle désigne sa nouvelle tête de Turc.
Dupond-Moretti, c'est Taubira Empire. Mais d'ailleurs, il ne se contente pas de libérer les détenus, il a milité pour le retour des djihadistes de Daesh.
Sur trois quarts d'heure de discours, une demi-heure est consacrée à l'insécurité, une dizaine de minutes au plan de relance du gouvernement. Après la longue description d'un été meurtrier, Marine Le Pen prévoit un automne sombre pour l'économie.
Le plan de relance présenté, toujours d'ailleurs avec cette autosatisfaction caractéristique de ce gouvernement, ne représentera qu'un volume de 4% du PIB étalé sur 4 ans. Alors que nous savons d'ores et déjà que la baisse du PIB sera d'environ 10% pour la seule année 2020. Et ceci avec l'objectif, nous a dit Monsieur le maire, de création de 160 000 emplois, alors que 800 000 emplois sont menacés d'être détruits dès 2020.
Grandes absentes de ce discours, les régionales de mars prochain. Marine Le Pen pense déjà à 2022. Au risque de sauter l'étape de 2021.
Antoine Marette à Fréjus. Les négociations sur le Brexit en pleine impasse. Le ministre français des Affaires étrangères demande à Londres un peu plus d'ouverture d'esprit. Si on veut négocier un bon accord, il ne faut pas uniquement parler des sujets qui intéressent les Britanniques, lance Jean-Yves Le Drian. La Grande-Bretagne répond qu'elle ne cédera pas face à l'Union européenne et qu'elle ne redoute pas une sortie de l'UE sans accord. Ils redoutent, eux, de perdre pied durablement, faute de pouvoir exercer leur métier à cause de la crise sanitaire. Les professionnels du monde du spectacle, les employés des bars et des boîtes de nuit de Belgique ont défilé dans la limite des places disponibles cet après-midi à Bruxelles et ont appelé le gouvernement au secours. C'est un cortège suivi par Lakshmi Lotha.
Sur une scène ambulante, les acteurs du secteur culturel diffusent le titre « Alors on danse » de l'artiste belge Stromae. Mais ils demandent symboliquement aux manifestants de ne pas danser. Ainsi, chacun ressent très concrètement l'absence, le manque et la frustration.
Je voudrais recommencer à danser parce que ça fait partie de ma vie depuis près de 30 ans. Je suis DJ et voilà. Et donc, c'est quelque chose qui me manque énormément et je ne vois pas pourquoi la musique ou le fait de pouvoir danser pourrait créer des complications par rapport au Covid. Si on nous permet d'aller dans un stade de foot, on devrait nous permettre d'aller dehors danser aussi.
Depuis le mois de mars en Belgique, le secteur culturel est à l'arrêt. Boîtes de nuit, événementiels, concerts, foires n'ont aucune date de reprise d'activité. Michel Sluismans est gérant d'une discothèque.
Mon échelle à moi, c'est vraiment la catastrophe totale, quoi. On est dans le flou total, on n'a aucune perspective d'ouverture. tout est bloqué et on ne sait rien. Aujourd'hui, on demande c'est d'avoir une réponse, une date de réouverture, ou alors que les gouvernements nous aident.
Un cercueil suit la scène musicale de près.
Symboliquement, on est venu avec un cercueil pour représenter la mort de notre secteur.
L'idée, c'est pas juste de pouvoir réouvrir les clubs et faire la fête, c'est juste de pouvoir faire en sorte que le secteur culturel puisse continuer à vivre.
Pour ne plus être oubliés, les acteurs de la culture lâchent finalement des ballons noirs dans le ciel avec l'inscription « Toujours vivant ».
Un homme est mort et 7 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement lors d'une série d'agressions au couteau la nuit dernière à Birmingham, deuxième ville d'Angleterre. La police s'est lancée à la recherche d'un suspect qui a pris la fuite. Au Mali, les concertations nationales pour le transfert du pouvoir aux civils, initiées par la junte militaire, ont été bouclées hier soir. Les très nombreux amendements déposés par les participants, outre la junte, les partis politiques et la société civile, d'anciens groupes rebelles, les syndicats et la presse, vont être remis ces amendements à un groupe d'experts désigné par le Comité national de salut public pour préparer d'autres pourparlers en fin de semaine prochaine. Valérie Crova a recueilli à Bamako les appréciations de jeunes Maliens.
Ils ont 27 et 33 ans. L'un est vendeur dans un petit commerce, l'autre est diplômé en informatique mais ne trouve pas d'emploi. Aboubakari et Mamadou sont tous les deux descendus dans la rue au moment des manifestations contre l'ancien président Ibeka. Pour ces jeunes Maliens, la concertation ne peut qu'apporter des changements.
Tous les partis sont d'accord de faire la concertation. Ça va vraiment aider beaucoup à aider le Malien à comprendre quelle direction prendre. Je crois que si... Et ensemble, nous parvenons à décider de mettre en place un gouvernement de transition. Ça va déboucher sur une grande chose.
Mamadou attend beaucoup des militaires qui ont pris le pouvoir, mais n'ont pas encore dit s'ils laisseraient un civil diriger le pays.
On peut dire qu'il y a un bon vent qui est en train de souffler. Ces militaires qui sont là, franchement, on leur fait super confiance. En tant que jeune Malien, mon souhait, ça va à l'endroit de tous les décideurs maliens. Qu'ils s'entendent sur un même point, trouver un président qui va diriger la transition et pour le bien de tous les Maliens.
Les concertations organisées par la junte doivent se terminer dans une semaine.
Au Soudan, le chef des médiateurs programme au 2 octobre la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et plusieurs groupes rebelles, accord consolidé par l'entrevue entre le Premier ministre Abdallah Hamdok et le SPLM Nord d'Abdelaziz Alilou qui a débouché avant-hier sur un accord de cessation d'hostilité. À Cuba, la crise alimentaire s'installe dans la durée avec l'épidémie du coronavirus plutôt contenue sur l'île et la fermeture des frontières au tourisme. L'économie cubaine manque gravement de devises à telle enseigne que Cuba, qui importe 70% de son alimentation, peine à payer ses factures. Domiti Piron, Cuba traverse une crise sans précédent.
Attendre et faire la queue, c'est devenu l'activité principale des Cubains pour obtenir de quoi manger ou se laver. Dans le centre-ville d'Holguín, Leonardo González attend comme une centaine de personnes pour acheter du shampoing.
Ça fait un bon moment que je ne peux pas en acheter. On verra si j'y arrive.
Dans ce magasin, on ne peut acheter qu'en devises et par carte. Une solution mise en place par l'État pour récupérer les dollars qui circulent dans le pays. Au coin de la rue, une autre file d'attente pour un magasin en monnaie cubaine. Ici, il y a du savon. L'ambiance est un peu tendue. L'exaspération se fait sentir. Mais au micro, Marisa González assure.
Ici, nous sommes unis et ce que nous voulons, c'est qu'on nous enlève le blocus. Parce qu'ici, à Cuba, tout le monde est heureux.
Ne parle pas, ne dis rien, lui dit son ami. Tantôt excédé, tantôt résigné, les Cubains font face à des pénuries toujours plus dures et la crise alimentaire profite aux revendeurs du marché noir dont les prix ont flambé. Les sanctions américaines et la crise mondiale du coronavirus ne font qu'aggraver la situation. Alors que le pays lutte encore contre l'épidémie avec un couvre-feu le soir à La Havane, respecter les distances de sécurité est impossible dans les files d'attente selon Yadir Guerrero, qui joue des coudes pour entrer dans un magasin où il ne sait même pas ce qu'il va pouvoir acheter.
Non, ici on voit bien que personne ne fait attention. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire la queue de toute façon pour pouvoir manger.
Beaucoup de Cubains estiment que même la période spéciale, la crise des années 90 après le départ des Soviétiques n'avait pas été aussi dure. Et comme solution à la crise actuelle, le gouvernement remet en place des mesures de l'époque, avec une dollarisation de l'économie, une ouverture au secteur privé et un plan de relance de la production nationale.
La police de Hong Kong arrête plus de 100 participants des rassemblements hostiles au report des législatives. Scrutin repoussé au 5 septembre 2021 par la chef de l'exécutif local, Carrie Lam. La météo de l'Hexagone en quelques mots, majeure partie du pays sera ensoleillée. À l'exception toutefois du sud-est, où l'on trouvera des averses. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau.